Armand Sylvestre, conte audacieux. Le ventriloque. Toi qui, sous le réveil des premiers souffles automnaux, courbes les branches inquiètes, qui sèmes, dans l'air tiède encore, l'or des premières feuilles mortes, qui jettes sur le sol, avant leur maturité savoureuse, les rares pêches de mon jardin. Toi qui penches, comme l'aile d'un oiseau blessé, la blancheur des voiles sur la face ridée d'argent des fleuves, tandis que dans les battelets dominicaux, les femmes poussent de charmants petits cris de peur. Toi qui fais gémir, autour des soleils éplorés, l'âme mélancolique des harpes invisibles, et qui, comme des tulipes moroses, retourne les parapluies sur le nez fouetté de roses des bourgeois maugréants. Éole, père du zéphyr et grand-oncle de Crépitus, c'est pour désarmer en un rire bienveillant tes précoces colères que j'écris ce conte sur du papier spécialement fabriqué à Soissons, par de dyspepsiques et flatulents papetiers. Car tu es bon vivant au fond, Éole, et quand, pareil au maître des dieux, dans l'humble chaumière de Philémon, tu quittes tes aériennes demeures pour loger au ventre reconnaissant de l'homme, tu es pour les pauvres gens une intarissable source de gaieté, et tu leur fais, autour des âtres où le tison fume, moins longue l'éveillé d'hiver. Tu remplaces le grillon dans les chaumières dénuées de bon génie. Dans l'hivernale solitude des plus pauvres demeures, tu évoques le souvenir parfumé des fleurs printanières. Horace et Rabelais ont rendu hommage à ton aimable caractère, bénévole immortel, auteur méconnu des premières romances sans parole, libérateur des digestions malaisées, sublime inventeur d'un lest dont tout aéronaute est naturellement muni, organiste inspiré des péritoniques cathédrales, bavard sans médisance, chanteur sans prétention, initium sapiente, dernier rempart des pucelles à bois, auguste, bienfaisant, et ventripotent Éole, vers qui s'élevèrent les premiers encens de ma jeunesse, sous la malédiction prématurée de mes parents. C'était un fort joli garçon que Zeb Loufalo, et de belle prestance, en la 30e année de son âge, et bien pourvu de fortune, ce qui ne gâte rien au mariage. Comment n'avait-il donc pas pris femme encore, lui que d'excellents principes de morale avait toujours gardé des concubinages malséants? Il y avait là certainement quelques mystères. Tout d'ailleurs, dans l'air de ce mélancolique personnage, semblait murmurer les deux premiers hémistiches du célèbre sonnet d'Arvers. La timidité maladroite de sa personne, son goût pour la solitude, son peu d'empressement auprès des demoiselles, et je ne sais quoi surtout de suppliant dans ses beaux yeux tristes, qui semblaient demander pardon. Et dans ses mêmes prunelles, cependant, brûlait ce feu intérieur qui dit les désirs contenus et les résignations douloureuses. Faut-il faire parler devant vous ce sphinx vivant? Soit. Mais alors, reculez-vous un peu, ou portez à vos narines, marquise, la fine batiste de votre mouchoir. Le malheur secret du pauvre diable était précisément d'être, si vous voulez, ventriloque, c'est-à-dire d'avoir les cordes vocales beaucoup plus bas qu'il ne convient, pour chanter en société surtout. J'entends qu'Éole était venu demeurer chez lui, et ne faisait qu'en ouvrir la porte naturelle à tout moment, comme les maniaques qui ont toujours besoin d'air. Et ce va-et-vient du dieu pétulant se faisait avec une musique tout à fait impertinente. Vous savez que cette cohabitation avec un dieu, toujours à lui, consiste en une maladie, laquelle figurait autrefois comme la cohabitation avec une concubine parmi les causes du divorce. Notre Eusèbe Loufalo en était irrémissiblement atteint, et la médecine avait tenté vainement d'exorciser en lui, avec des goupillons à canules, cet esprit malin qui le rendait insociable et immariable surtout, ce dont il était particulièrement marré, ayant sur soi toutes les pièces idoines aux félicités conjugales, dont Panurge a recommandé la première en de très éloquents propos. Un vieil ami de la famille écrivit un jour d'Espagne, où le malheureux se repaissait du punchero, que le descendant d'une très grande famille hidalgote, le marquis Don José Silves y San La Rose, possédait une fille pauvre, merveilleusement belle, et copieusement sourde, dont il se débarrasserait volontiers en faveur d'un français opulent. c'était une occasion tout indiquée. On pouvait même laisser ignorer à la future l'infirmité de son fiancé, ou la tromper, en lui disant, pour expliquer l'air un peu chose et gêné de Zeb, qu'il avait un œil de verre, mais qu'il n'y fallait jamais faire aucune allusion. On s'arrêta à ce dernier stratagème pratique, et les choses marchèrent avec une rapidité qui démontre bien que Louis XIV n'avait pas dit un mot ridicule en affirmant devant l'histoire qu'il n'y avait plus de Pyrénées. C'est uniquement pour faire des situations aux douaniers qu'on feint de supposer qu'il en existe encore. Nos députés ont tant de parents à pourvoir de places fructueuses et honorées. Mademoiselle Bépesse Sylvesse Issonne-la-Rose était charmante, comme je l'ai dit plus haut. La nature équitable et compensatrice avait reparti sur ses autres sens ce qu'elle lui avait volé de finesse au point de vue de Louis. Ses beaux regards étaient les plus pénétrants du monde, ses mains blanches d'une merveilleuse adresse, ses lèvres d'une gourmandise exquise et son nez latin captieux des plus subtiles odeurs. C'est ce à quoi on n'avait pas pensé et qui faillit tout gâter. Bépa n'entendait pas les concerts de Zeb, mais il lui venait quelque chose de l'air du jardin où il les exhalait. Plus heureuse que le poète persan, Rose elle-même, elle respirait le parfum de la rose. Comme à beaucoup de femmes, l'odeur des fleurs lui faisait mal, la nuit surtout, et dans les chambres fermées. Elle se réveillait, la nuit, en éternuant, comme si on eût ouvert quelques fenêtres. Et, dans un délicieux patois andalou, elle envoyait à tous les diables ce mari mal clos, qui la mettait sans cesse dans des courants d'air, et qui oubliait toujours de se fermer derrière lui. Notre pauvre Loufalot, qui adorait sa femme, et qui se rendait fort bien compte de la chose, était vraiment au supplice. Quel dieu méchant lui avait mis ce ballon dans les entrailles! Il maudissait la vie, et devenait de plus en plus morose. Très bonne au fond, Bépa regrettait ses colères de la nuit, et lui demandait pardon en mille caresses de femme aimante. Désespérant de se mettre sous cadenas, Eusèbe inventa une pratique qui atténuait beaucoup le désordre causé par ses intempérances de langage. Quand il sentait que le démon capricieux allait ouvrir la croisée, brusquement il sortait son derrière des draps, par un mouvement violent de recul et de cul, de façon à ne point enfermer sous l'étoile la méchante haleine à laquelle il donnait la liberté. Il devint bientôt d'une force prodigieuse à cet exercice. Et il était arrivé à chasser si loin l'invisible cartouche que la poudre en était à peine sentie de sa voisine, qui recouvra ainsi le sommeil. Et, avec le sommeil, rentra la sérénité dans ce noble mariage. Une nouvelle lune de miel se leva au ciel, un instant assombri, du lit conjugal. Le baiser refleurit sur leurs bouches, comme un volubilis qui se rouvre à l'aurore, et l'âme douce des caresses, comme le vent qui porte l'aile blanche des colombes, se mit à tressaillir dans la transparence des rideaux. Une femme sourde et presque muette. Que le silence leur semblait doux à tous deux. Car les lèvres sont faites pour mieux que parler, et c'est leur désœuvrement seul qui enfanta l'éloquence. Or, une nuit, tout doucement, sans réveiller Eusèbe, Bépa, qui couchait dans la ruelle, avait enjambé son mari pour venir s'asseoir à la tête du lit sur un vase étrusque dont la vitrine s'appelle « table de nuit » dans les familles. Le murmure d'une source qui chante sous la profondeur humide des mousses susurra dans l'ombre avec de petits soupirs de soulagement. Juste à ce moment, notre Eusèbe eut un sursaut, un caprice d'éole qui demandait absolument de l'air. Plus véhémentement que jamais dans l'obscurité inconsciente, il rejeta la couverture et fit sa damnée gymnastique. Les deux visages se rencontrèrent, celui qu'il mettait dehors et l'aimable minois de Bépa, toujours en naïade. Par un sentiment exquis de pudeur, celle-ci voulut repousser doucement la figure qui lui tendait un baiser sans doute. Elle sentit son joli doigt, son doigt mignon, son doigt exquis, son doigt d'ivoire ourlé de rose qui entrait. Ah ! Quelle peur elle eut ! Car se relevant et se jetant en avant, les bras ouverts, elle gémit. « Ah, mon pauvre ami ! J'ai crevé ton dernier œil !»